Politiquement vert, la politique rencontre l'environnement avec Fréquence Terre, votre rendez-vous écologique. Frédéric Bénaud.
Dans votre rendez-vous politiquement vert, nous allons parler outre-mer. Bénédicte Monville de Seco est avec nous, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes anthropologue, spécialiste des DOM-TOM et des discriminations. Vous êtes aussi porte-parole d'Europe Écologie Les Verts pour les régionales. Nous allons parler de l'outre-mer. Expliquez-nous pourquoi c'est un sujet que vous avez choisi de maîtriser.
Bon, déjà, je me suis intéressée à l'outre-mer parce que je suis moi-même d'origine martiniquaise. Les Antilles sont de petites îles qui sont situées dans une zone assez tourmentée, les tempêtes tropicales, qui sont de plus en plus violentes et de plus en plus fréquentes et dont les répercussions pour les Antilles et pour les Antillais sont souvent dramatiques. Mais pas seulement, il y a maintenant, pour les Antilles françaises, en tout cas pour la Martinique et pour la Guadeloupe, le phénomène des sargasses, qui sont ces algues qui viennent de la mer des Sargasses et qui prolifèrent de manière exponentielle et dont on ne sait pas comment les maîtriser. Et ça crée des problèmes énormes parce que ça crée des problèmes de santé. Elles dégagent des gaz toxiques dans l'atmosphère qui provoquent chez les gens des infections respiratoires. Elles effraient à la fois les Antillais et les touristes puisqu'elles rendent les plages impraticables. Et donc pour des îles qui vivent surtout de l'économie du tourisme, on imagine bien que l'impact économique est très important.
Alors on retrouve les problématiques des algues vertes en Bretagne un peu, hein, c'est exactement la même chose.
Absolument.
Il y avait aussi, on se souvient de la montée au créneau de Corinne Lepage sur le chlordécone. Où est-ce qu'on en est avec les bananes aux Antilles?
La banane antillaise est toujours un produit d'exportation important. On n'utilise plus de chlordécone aux Antilles, mais le problème, c'est qu'on l'a utilisé pendant très longtemps, que les planteurs antillais ont eu le droit à des dérogations pour pouvoir continuer à utiliser le chlordécone alors qu'il était déjà interdit en métropole. Et le résultat, c'est qu'on a des pans de territoire entier qui sont pollués. Et le chlordécone, c'est un pesticide qui, malheureusement, a une durée de vie qui va bien au-delà de l'espérance de vie des êtres humains. Donc on a, à la Martinique en tout cas, le record du monde du nombre de cancers de la prostate chez les hommes.
Oui, je voudrais qu'on parle un petit peu de la Polynésie aussi. Là-bas, c'est le problème des terres rares, un petit peu comme en Afrique. On a appris très récemment qu'en Afrique, en fait, les terres rares servaient parfois à financer des guerres. Mais en Polynésie, le problème est tout autre. C'est que les politiques y voient une source de modèle économique, on va dire, une autre source de richesse. Mais l'exploitation des terres rares ne peut pas se faire au détriment de la destruction des paysages, parfois de certaines îles un petit peu éloignées. Qu'est-ce que vous en pensez, là ?
C'est dramatique et que là encore, on s'inscrit dans une même logique économique. C'est-à-dire qu'on exploite, on va exploiter des terres rares parce qu'on en a besoin pour nos équipements électroniques, mais que la répercussion de l'exploitation des terres rares sur le long terme est délétère pour les écosystèmes. On va s'engager dans des extractions minières en Polynésie, dans des lieux qui ont, on le sait très bien, des équilibres écologiques fragiles, qui ont déjà été très malmenés par le passé avec les essais nucléaires. Il faut qu'on se rappelle un peu de ça aussi. Et puis, pareil, une économie locale qui malheureusement est entièrement tournée vers l'importation ou le tourisme. Il est impératif d'essayer de changer de modèle de développement économique, de développer une économie locale qui ne soit pas tournée vers l'exportation. Parce que là, qu'est-ce qui va se passer? La Polynésie va exporter des terres rares, elle va l'exporter vers la Chine, vers les producteurs justement de l'électronique. D'électronique.
C'est ça, oui.
Et ça aura un impact dévastateur sur les écosystèmes polynésiens et ça ne garantira pas la pérennité d'un système économique pour les Polynésiens et pour le développement de ces îles sur le long terme. Donc c'est une catastrophe à mon sens.
Si j'écoute un petit peu vos propos, vous souhaitez en quelque sorte que l'économie des îles soit autonome ?
Autonome. Faut en tout cas mettre en œuvre une économie qui permette de protéger les écosystèmes et de protéger la vie humaine. Or là, en continuant dans des économies mondialisées, enfin à encourager une économie mondialisée qui est basée essentiellement sur l'import-export et sur la mise en concurrence des populations entre elles, il faut sortir de ce modèle-là. Que ce soit les Caraïbes aux Antilles, qui étaient des populations nomades, itinérantes, qui se déplaçaient tout le long de l'arc des Antilles, des grandes aux petites Antilles, jusqu'au Venezuela, ou que ce soit les Maoris, ou les populations de Polynésie, on avait affaire à des gens qui vivaient dans une relation avec leur écosystème qui a permis, pour le moins, que ces sociétés perdurent pendant des millénaires. Là, ce qu'on voit, c'est qu'à partir de l'arrivée des Occidentaux, enfin des Européens occidentaux au XVe siècle, les terres antillaises, comme les terres des Amériques, vont servir à la production massive et déjà industrielle. On est déjà dans un mode de production industrielle, même si ce ne sont pas des machines, ce sont des esclaves qui produisent, mais vont servir à produire la richesse qui va permettre ensuite de développer la révolution industrielle en Europe. Et ce qu'on voit, c'est que ce modèle-là, il a 400 ans et qu'il est en train de se casser la figure. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que l'humanité a bien plus longtemps vécu autrement que comme ça. Ces sociétés avaient comme horizon de ne pas trop travailler et de vivre le mieux possible, ce qui me semble être un horizon souhaitable pour nous tous. Eh bien, elles vivaient essentiellement de la prédation, prendre ce que la nature leur donnait, donc sans abîmer les écosystèmes de telle manière à ce qu'il y ait toujours à peu près la même chose dans la nature. Et donc, elles se déplaçaient, elles étaient nomades. Mais avec un sens aigu, une intelligence remarquable de ce qu'était leur environnement naturel et de ce qu'il fallait faire pour pouvoir le préserver et se préserver dans les meilleures conditions possibles à l'intérieur de cet environnement. Ce que nous avons perdu, c'est ça. Ce que ces sociétés, d'une certaine manière, ont à nous apprendre, c'est ça.
Alors, comment on les accompagne dans l'autonomie ?
Comment on les accompagne dans l'autonomie ? Déjà, en leur permettant d'être les acteurs de la transition, disons, écologique qu'il faut impérativement mettre en œuvre aux Antilles, et donc réorienter l'économie vers une économie locale, c'est évidemment indispensable. Il y a un marché local, il y a des gens qui mangent aux Antilles. Comment se fait-il qu'aujourd'hui vous avez des gens qui meurent de faim aux Antilles ? Il faut aller se promener dans les faubourgs de Fort-de-France. Les Antilles sont des terres qui, encore une fois, ont la capacité de nourrir la population antillaise, mais encore faut-il qu'il y ait une volonté politique de réorienter le développement agricole des Antilles vers une agriculture qui produise une alimentation pour la population.
Bénédicte Monville de SECO, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes anthropologue, spécialiste des DOM-TOM, des discriminations. Vous êtes aussi, et surtout peut-être, porte-parole d'Europe Écologie Les Verts pour les régionales. Merci beaucoup.
Merci à vous, merci de m'avoir invité.
Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site fréquenceterre.com.